En France, ce qui est stupéfiant, c'est qu'en gros, il n'y a personne qui a des discours positifs. Quasiment personne. Sauf des voix que personne n'écoute. Donc c'est quand même une société où plus personne n'ose dire. Moi, je le vois bien parce que mon dernier bouquin qui vient de sortir est très favorable à la civilisation des migrants. Et je veux dire, et on voit bien comment les gens sont tétanisés. Comment tu oses faire un livre à contre-courant, quoi. Donc c'est assez curieux. C'est-à-dire que tout le monde a accepté l'idée, en gros, qu'il fallait mettre la tête dans le sable. Et au fond, laisser les discours de refus, alors tu montres quand même très bien que le courage des positions a de l'influence, que ce soit celle d'Angela Merkel, qui intervient quand même aussi au nom des valeurs, pas uniquement, bien sûr, je pense qu'il y a du business derrière, parce qu'elle a aussi dit une chose qui, est quand même, qui m'a beaucoup intéressé, elle dit un immigré syrien est productif au bout de 7 ans, et un bébé allemand au bout de 25 ans. C'est vrai qu'en termes de purement économique, c'est rationnel. Au bout de 7 ans, il est productif. Quoi. Bon. Alors, c'est sûr. Bon. Alors, en plus, on n'a pas à le faire, donc c'est pas fatigant. Bon. Donc c'est tout un bon bénéfice. Mais non, mais ils sont très allemands, pour ça. Enfin, ils sont très allemands. Ils adorent ça. Et moi, j'aime bien Merkel pour ça, pour enfin, ces chiffres. Qu'elle... Mais ça veut dire que nous, effectivement, si je vous demande quelle est la voix que vous avez entendue là-dessus, qui a des discours forts, honnêtement, en France, c'est très très peu. Ce qui renvoie aussi, semble-t-il, à la mort d'Algérie, etc. Et au fait que la gauche en France est historiquement, alors un peu moins les leaders maintenant, mais ceux d'avant, ils avaient tous fait l'Algérie. Chirac a fait la guerre d'Algérie, Jospin a fait la guerre d'Algérie, c'était la génération des combattants de l'Algérie. Les nouveaux, pas tout à fait, mais les partis politiques sont encore très structurés par ces idées. D'ailleurs, moi qui ai été élu à Marseille, je sais que je m'étais battu pour que la deuxième de liste, on m'avait proposé la deuxième de liste, j'ai dit non, on va mettre une femme immigrée. Et alors la discussion, ils m'ont dit, oh Jean, quand même, tu ne vas pas nous faire ça. Je dis, attendez, il y a 200 000 musulmans dans la ville, donc moi, vous savez, je fais de la politique. Donc, alors il y en a un qui m'a dit, tu ne pourrais pas plutôt proposer une femme juive. Je dis, très bien, il y en a d'ailleurs déjà deux, mais ce n'est pas ça la question, c'est qu'il y a un électorat considérable et une réflexion sur le fait que dans une ville où il y a 200 000 musulmans et aucun élu, il y a peut-être quelque chose, mais je parle de 200 000 musulmans français, je parle pas des ceux qui n'étaient pas français. Il y a peut-être dans le débat démocratique, mais rien qu'imposer dans une ville où il y a 200 000 électeurs musulmans un représentant symbolique, maintenant il y a enfin une sénatrice musulmane grâce à ça, puisque c'est moi qui l'ai fait mettre, ça semblait vraiment de la dernière des grossièretés. Je préfère ne pas vous raconter tout ce que j'ai entendu en dehors de ce qui peut se dire en public. Pendant que, y compris dans le camp qui était celui-là, quoi. Donc voilà, la violence est considérable. Donc ça, je crois qu'on l'a bien montré. Voilà. Donc c'est important aussi, si vous voulez, dans un séminaire comme ça, à la fois de réfléchir sur les grands changements de société, et puis à un moment, on ne peut pas agir contre les opinions publiques non plus. Alors on a vu hier toutes les réflexions sur l'autorité qui nous a amené notre camarade, mais on voit bien aussi que les gens sont extrêmement crispés, et que donc, et en plus qu'il n'y a pas de pensée européenne là-dessus. Effectivement, chacun au fond a ses pensées nationales, et alors si quelqu'un a entendu un discours des autorités européennes, c'est qu'il a vraiment de grandes oreilles, parce que alors là, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a absolument aucun discours. Et encore, tu n'as pas mis les Anglais, parce que si tu avais le Brexit, si on analysait le Brexit en corrélation avec tout ça, il est clair qu'il y a un lien direct entre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne et la question de l'immigration. Alors, ce qu'ils sont en train de discuter, c'est est-ce qu'on pourra toujours aller en Angleterre. Ils vont certainement dire non. C'est-à-dire que leur vrai sujet, ça va être on ne peut plus aller en Angleterre si on n'est pas anglais, point barre, même si on est français, polonais, etc. Alors évidemment, je ne parle même pas si on est africain, mais donc on est en train là-dessus d'être sur ces enjeux-là. Voilà. Donc, ils sont très oubliés. Et je rappelle aussi qu'il y a eu 22 000 noyés en Méditerranée depuis 10 ans, il y en a eu 5 000 l'année dernière, et qu'en gros, on a tous intériorisé l'idée que pour l'instant, c'est le seul système qu'on avait trouvé pour limiter l'arrivée des migrants. Il ne faut pas quand même rêver, parce que j'ai jamais eu de grande manifestation contre les noyades. Envoyer des ferries à Tripoli pour prendre les gens, c'est pas compliqué, on en a plein qui servent pas. Donc c'est pas un problème technique, c'est bien un refus, et après, regardez quand même qu'on n'arrête pas de se payer la gueule de Trump qui veut faire un mur avec le Mexique. Moi je préfère les murs au cimetière marin, mais c'est une question d'esthétique, vous me direz. Mais c'est quand même moins grave de faire un mur avec le Mexique que de faire un cimetière marin généralisé. Et n'empêche qu'on s'est tous moqué de Trump, et nous on accepte le cimetière marin. Et je ne sais pas combien chacun d'entre vous a donné d'argent, par exemple, à SOS Méditerranée, qui est l'association qui affrète des bateaux pour ramasser les noyés. Je pense qu'ici, les deux tiers d'entre nous n'avons rien donné du tout. Donc on n'est même pas moralement, je dirais, engagé dans la solidarité. Les syndicats, les associations n'en parlent quasiment pas. De temps en temps, on vous dit, oh, ben, cette semaine, il y a eu tant de noyés. Bon, ben, ça fait partie des informations des brèves de comptoir. Voilà, je voulais dire ça parce que, je veux dire, sur ces questions, j'allais dire, nous-mêmes, on a intériorisé que face à ce qui est en train de se passer, et qui en plus par rapport à ce qu'on nous a dit tout à l'heure était très intéressant, de se rendre compte que les gens ne viennent pas tous parce qu'ils meurent de faim, c'est pas du tout comme ça que ça marche l'immigration, c'est beaucoup plus construit autrement. N'empêche que quand certains disent qu'il y a 1,5 million qui vont être en Afrique, ce qui est vrai aussi, non, 450 millions, on voit nos sociétés qui se rétractent sans qu'on ait une réflexion ni sur comment il va faire pour qu'ils se développent, ni comment on va faire pour qu'ils viennent chez nous ou qu'ils ne viennent pas chez nous. Mais on sait très bien que dans 30 ans, il y aura 1,5 milliard de mecs en Afrique, dont 700 millions de francophones. Donc, tout naturellement, ils vont pas parler breton, quoi. Donc, effectivement, ils sont francophones, donc tout naturellement, l'air culturel de leur mobilité sera un peu plus tendance francophone qu'effectivement ailleurs. Donc, tout ça, c'est quand même des sujets de fond qui vont structurer la vie politique ces 50 prochaines années, dont on n'entend quasiment rien dire. Et on est en train de se rendre compte, qu'on disait hier, que par exemple le patronat français, je me suis payé la tête hier du patron de Gattaz, parce que c'est quand même se dire que c'est la première fois que le patron des patrons franchit le Sahara. Donc je veux dire que l'idée des liens économiques, et donc du fait qu'on a beau dire, mais c'est des pays qui se développent, ça permet quand même de garder les populations, etc., c'est quand même un des éléments, on est en train de se rendre compte de ça. Donc je veux dire, il y a là des enjeux absolument majeurs de stratégie, qui vont être devant nous. Voilà. Madame.
Moi je me...
Non, donnez pas votre portable, mais votre nom et votre adresse.
Donc Magali Castex, de Grand Paris Aménagement. En fait, moi je me posais la question, finalement, de ce que ça montrait, ce sondage. Et en fait, je me fais une réflexion. Est-ce que finalement... chez l'homme, il n'y a pas une tendance qu'on essaie de masquer avec le développement de la société, de notre vie politique, qui est le fait de rejet de l'altérité, enfin sous toutes ses formes, on parle des Bretons, enfin voilà, on l'a vu avec Pol Pot, l'altérité peut aller très loin sur tout ce qui n'est pas moi, et que du coup, finalement, bah, quand on commence à caresser. Cet aspect-là qu'on a tous en nous, je pense, de rejet de l'autre, et ben il sort, et plus on le stimule, et plus il sort, et plus on pose la question des autres, etc., bah, plus on dit, bah oui, ils vont m'agresser, ils vont modifier ma vie, machin, etc. Sachant qu'en plus vient se greffer un aspect habitude, parce que comme les gens qui se noient, voilà, au premier boiteux qui se noient, on dit, mais c'est affreux, il y a un bateau qui. Toutes les semaines, au bout d'un moment, on trouve ça normal parce que l'être humain aussi, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens, il s'habitue même à des trucs horribles. Et du coup, ça veut dire qu'en effet, la position du leader d'opinion est fondamentale parce que parmi toute cette masse d'êtres humains, il y en a toujours un petit pourcentage qui arrive à dire bah non, je m'habitue pas à ce qu'on dit et puis non, je ne vais pas laisser submerger les sentiments de rejet. Et du coup, oui, le problématique que nos leaders, en effet, ils caressent au contraire ce côté un peu malsain qu'on a tous et qu'il n'y en a pas qui. Qui n'émerge pas en France, en tout cas, un pape ou quelqu'un d'autre qui irait un peu à contre-courant et qui pourrait, de ce fait, emmener aussi d'autres gens, parce que les gens, ils sont versatiles aussi, je pense.
Oui, puis il y a les sentiments d'utilité aussi qu'ont les sociétés sur le fait que les migrants sont utiles ou pas. Je veux dire, au moment où, il y a 30 ans, quand dans le taylorisme industriel, où on faisait venir des populations du Maghreb, il n'y a pas eu en France d'opposition dans les années 60-70, parce que c'était effectivement considéré comme d'une utilité économique incontestable, dans un certain modèle de développement. Mais vous avez raison, avec le fait quand même qu'il y a des phénomènes d'histoire qui sont très importants. Parce que l'Italie, par exemple, c'est un pays d'émigration. Donc, en fait, traditionnellement, en Italie, il y a des Italiens. Ce qui n'est pas le cas de la France, où il y a toujours eu énormément d'étrangers. Enfin, d'étrangers, de gens qui venaient ailleurs, parce qu'on ne parle d'une position en Europe, il y a toujours eu des Polonais, des Italiens, des Espagnols, etc. Et donc, on est un pays, effectivement, qui a toujours reçu, après les États-Unis, on est le deuxième pays en termes de pays qui a reçu le pourcentage de gens ayant un parent étranger, etc. Donc, on est dans des ratios extrêmement. Donc, les histoires comptent énormément. Et ce que tu as dit sur l'Allemagne, c'est vrai que le fait qu'ils aient accueilli après les Sudètes, les Sudètes, on a expulsé les populations des Sudètes en 1945, et qu'on a effectivement fait venir 10 millions d'Allemands des Sudètes, etc., ils ont une culture de l'accueil qui s'inscrit de génération en génération. Et je crois que ces éléments historiques jouent aussi énormément. Donc on ne peut pas complètement généraliser, il me semble, dans les positions, morales des sociétés, dans le rapport avec la diversité des cultures, D'autant plus qu'on est beaucoup plus mobile qu'avant. Parce que je veux dire qu'il y a 1 milliard de gens qui voyagent et qui vont dans d'autres cultures.
Bah, oui, mais c'est vrai que, enfin, moi aussi, je me dis, c'est pas possible d'être dans une situation aujourd'hui, alors que beaucoup comparent avec les années 30, on voit la masse de gens qui ont circulé partout, donc on se dit, qui ont été frottés beaucoup plus qu'il y a 50 ans ou 70 ans à d'autres cultures, donc on se dit, c'est pas possible de se trouver dans ce même type de repli, et pourtant, voilà, les soldats et machin.
Alors, c'est pas les sondages machin seulement. Non, vous avez un truc plus sérieux que les sondages, ça s'appelle les urnes. Et vous voyez les résultats. Parallèle avec les années 30, il faut faire attention parce que la question, il y a l'antisémitisme, mais il n'y avait pas cette question de la problématique migratoire, en tout cas en France, qui n'était pas aussi. C'est pas ça qui a fait le développement, ou en Allemagne. C'est pas au nom de la lutte contre l'immigration que. Les nazis sont arrivés au pouvoir. Faire attention aussi, tous autant qu'on est dans cette salle, on n'est pas représentatif de la population française. Le nombre de gens qui se sont frottés aux autres, qui ont été faire des études à l'étranger, enfin, il y a eu plein de papiers sur la génération Erasmus, en volume, c'est beaucoup de monde, ramené à la population française, c'est beaucoup moins de monde. Et aux États-Unis, en Autriche, en Grande-Bretagne avec le Brexit, en France, faites la géographie des votes, le vote Trump, le vote pour le Brexit, le vote pour le FN, le vote pour le FPO en Allemagne, en Autriche, partout, on est sur une géographie nouvelle qui se met en place. Il y avait la lutte des classes avant qui a structuré beaucoup le clivage gauche-droite. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver. La question des migrations, c'est un des visages, c'est le rapport à la mondialisation. Est-ce que je suis du bon ou du mauvais côté de la barrière? Gagnant-perdant. Et pour beaucoup de gens, il y a une insécurité économique. Je perds mon boulot, même si l'entreprise a fait des bénéfices, il y a des types, je ne sais pas où, qui ont décidé de fermer le site, je dégage. Il y a l'insécurité physique, il y a l'insécurité culturelle, on appelle comme on veut. L'insécurité culturelle, c'est dire, est-ce que demain, je serai encore chez moi, ou est-ce que je serai... Les règles non écrites qui font qu'on vit ensemble sont bien celles auxquelles je suis attaché, dans lesquelles j'ai grandi. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ces migrants, même en France où ils ne sont pas nombreux, c'est un des visages de la mondialisation. Et d'où la notion centrale. J'en viens à parler de le mur au Mexique, le Brexit, la frontière. Sarkozy, c'est au cœur de son discours d'entre-deux-tours qui le fait remonter quasiment au score sur Hollande. Mais là, avec Patrick Buisson qui lui murmure à l'oreille, c'est la question de la frontière. La question de la frontière, aujourd'hui, elle est fondamentale parce que c'est ce à quoi beaucoup se raccrochent en disant ce truc complètement dérégulé, à la fois les populations circulent, mais le fric, les marchandises, et nous, on est du mauvais côté de la barrière. On est du mauvais côté de la barrière. Vous regardez, on est sur Paris, faites le vote pour le Front National en fonction de la distance à Paris, ben, on a la même chose avec le vote pour le Brexit en fonction de la distance à Londres, ou pour Trump à la distance à New York. Est-ce que je suis là où ça se passe, dans les villes mondes où ça se mélange et où on a, la mondialisation c'est des opportunités, ou est-ce que je suis du côté des largués? Et là, on sort un peu du sujet, mais...
Non, mais c'est ce qu'on a vu hier sur la question des métropoles. C'est
voilà. Si on parle des territoires, moi, je fais une intervention devant des élus de gauche de la nouvelle région Occitanie. Hein, au moment de la réforme, elle ne s'appelle pas encore Occitanie, au moment de la réforme de la carte territoriale. Elle est vendue comment, cette réforme? Elle est vendue, il faut qu'on ait des régions qui soient aussi costauds que les allemands. Si on s'est frotté un peu à l'Allemagne, on sait qu'il y a un truc qui s'appelle la Saar ou Schleswig-Holstein, qui fait à peu près 2 départements français. Donc c'est pas forcément un problème de taille. Et il faut que ce soit structuré autour d'une métropole régionale forte. Donc super Occitanie, bon, ils se tirent la bourre entre Montpellier et Toulouse, mais il y a Toulouse, à Airbus, donc là on est du bon côté de la barrière. Je parle devant les élus, et moi je défendais pas cette position, mais c'est comme ça que ça a été vendu aux gens. Et comment c'est reçu dans le Tarn, ou dans le Gers, quand on parle comme ça, ben, moi je vais vous le dire, il y a des élus socialistes de Carmo, donc ça parle aussi aux socialistes, hein, la Patrice Jaurès, qui dit, bah ouais, Toulouse sera la locomotive et nous, on sera les wagons rouillés. Donc il y a tout ça derrière, tout ça. Et donc la question migratoire, ça vient encore rajouter à ces éléments-là. Et le Front National a structuré un imaginaire, à structurer un discours qui est en phase, qui, alors, d'accord, pas d'accord, mais qui part de ce réel-là et qui donne la grille de lecture en disant, voilà, c'est comme ça que ça se passe, il y en a qui ont intérêt à ce que ça se passe comme ça, la mondialisation, c'est les financiers qui tirent les ficelles, et nous, on va défendre les pauvres, on va défendre les wagons rouillés. Donc il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Nous, on avait été frappés au début des révolutions arabes. On a un consensus, pour le coup, politique et médiatique. En France, tout le monde dit c'est génial. Hein, voilà, il y a des peuples qui se soulèvent. D'autres un peu plus pointus disent, voilà, vous voyez que c'est, les Arabes n'ont pas comme fatalité le choix entre une dictature militaire autoritaire ou l'islamisme. La Tunisie, il y a une autre voie, donc c'est génial. Donc tout le monde était hyper content. Printemps de jasmin, ça sonne bien. On sonde les Français en leur disant, quand vous voyez tout ça, là, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet ? 40% plutôt optimiste, 49% plutôt inquiet. Et la seule à l'époque qui dit, moi je suis très content en tant qu'être humain pour eux, mais en tant que responsable politique français, j'ai peur qu'après le printemps de jasmin, il y ait l'hiver islamiste, et qu'il y ait une comment dire, déstabilisation de ce qu'on peut appeler l'IMES à la frontière sud, et qu'on entraîne ensuite des flux migratoires. C'est le début de la révolution arabe. Marine Le Pen, elle est déjà sur ces positions-là. 2012, elle est à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Il y a Merah qui frappe à Toulouse. À l'époque, on ne voit pas ce que c'est. On pense que c'est un espèce de loup solitaire, etc. Marine Le Pen fait un discours en disant combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui tous les jours arrivent en France. Alors c'est à la fois les infiltrés, mais c'est plus perverse que ça, c'est de dire aussi, ces types, ils sont inintégrables, on va les déverser dans les banlieues, ils vont rester entre eux, ils vont se monter la tête, et dans 15 ou 20 ans, quand ils seront grands, on paiera l'addition. Hein, mars 2012. Et donc la grille de lecture, elle est très fortement structurée, elle est hyper adaptée à ce qui se passe, et en face, il n'y a rien. En face, on a Manuel Valls qui, après le revirement de Merkel, va à Munich et dit, bah, vous voyez, Merkel qui avait été montrée en exemple, elle a été obligée de ravaler sa fierté, etc. C'est un dirigeant socialiste. Je ne suis pas politique, mais historiquement, c'est plutôt à eux de porter ce message-là.
Je ne fais pas de politique, mais on en pense quand même quelque chose.
Il est pas du tout, vous voyez, il n'est pas audible. Hein. Il n'y a pas de discours constitué. Et la force va à la force. Si vous avez une tendance historique, des leaders qui martèlent depuis 30 ans un truc cohérent, ça enfonce toutes les digues. Donc, heureusement, ça résiste encore, mais il faut prendre ça en tête. Et oui, il y a Erasmus, oui, on s'est baladé. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait. Et puis, plein de gens qui se disent que demain sera pire qu'aujourd'hui. Et la question des migrations et autres éléments, des localisations et autres, c'est un élément tout à fait central.
Quelques dames qui ont demandé la parole. Alors, on m'a dit qu'il y avait un ordre.
Elisabeth, Héloïse et Éric.
Vous êtes cinq. Allez-y, on prend les cinq d'un coup.
Patrick Grégoire, établissement public d'aménagement, Euro-Méditerranée. Je m'inscris un peu en faux, je ne suis pas forcément d'accord avec l'affirmation que vous avez donnée tout à l'heure, Jean, sur on ne peut pas gouverner, je dirais, sans la validation de l'opinion publique sur des thématiques comme ça. C'est un grand coup un petit peu des éléments qu'on a évoqués hier sur les politiques publiques d'État. Sur lesquels, je dirais, les instituts de sondage font se prononcer les gens, je dirais, sur des intérêts majoritairement individuels, alors que là, on est typiquement sur du supra-territorial, supranational, avec des enjeux macroéconomiques, de développement, etc., etc. Je suis un peu inquiet de la manière dont les hommes politiques aujourd'hui peuvent utiliser finalement ce type de résultats de sondage, dont on voit d'ailleurs dans vos éléments une volatilité extrême aux événements médiatiques du quotidien. Donc qui mêle un petit peu la problématique de la surmédiatisation et du contre-pouvoir médiatique aujourd'hui face aux politiques, qui m'inquiète un petit peu dans justement avoir finalement, une stratégie à long terme sur une politique migratoire. Aujourd'hui, un échec complet des gouvernements depuis des dizaines d'années. Et on ne peut pas avoir une politique migratoire qui est un enjeu majeur de développement, de macroéconomie, d'intégration, etc., sans avoir une vision de long terme en réagissant aux gamins qui sont morts sur la plage, à Daesh, etc., etc. Ce n'est pas que ça, et ça m'inquiète un peu.
Merci, madame.
Sur le micro.
Donnez devant, donc c'est pas plus simple de. Non, il faut dans l'ordre, vous enlevez la main. D'accord.
Deux petites minutes, c'était là, non ?
D'accord, oui. ça n'a pas beaucoup d'enjeux lors de
parler. Elisabeth Gaillard-Colas, ma question est extrêmement proche de la précédente. Elisabeth Gaillard-Colas, c'est déjà dit. Donc ma question est très proche de la précédente, et je fais le rapprochement entre la présentation de ce moment et la précédente. Effectivement, comme vient de le dire, je ne me souviens pas de ton prénom, média, immédiat, même combat. C'est-à-dire qu'on voit bien que les opinions sont extrêmement sensibles à l'immédiateté qui sont largement transposées par les médias, des grandes difficultés à s'intéresser au temps long et aux faits structurants qu'on a pu représenter dans l'exposé précédent, et la question de la politique qui se passe quand même a priori, même si on a eu quelques contre-exemples dans les années récentes, la politique est quand même faite pour structurer le temps long et ne pas réagir à l'opinion. Comment, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça finalement ? Comment on construit une politique à partir de ça ? Et comment vous, dans votre fonction, qui est quand même in fine des carrières politiques, vous voyez l'utilisation de tout ça ?
Vous passez à votre voisine ?
Oui, je rappelle à l'heure. Donc Héloïse Denis, ça va être Bouygues Construction. Donc ta question était très pertinente, et je me pose exactement la même question, c'est de se dire en effet, il y a cette opinion qui dit ça, ce n'est utilisé finalement que par les politiques, hein, cette vision-là va être utilisée par les politiques, donc il y en a qui vont s'en servir comme une Marine Le Pen, et puis il y en a qui vont complètement taire ce sujet-là, ou qui vont suivre l'opinion sans pour autant avoir une vision à long terme de la politique migratoire. Deuxième sujet, j'étais assez étonnée de l'info que vous donniez, qui était que la France était la deuxième terre d'accueil après les États-Unis. Comment ça se fait dans ce cas-là que les politiciens ne portent pas ce message-là alors qu'on se retrouve avec des voisins qui ont une histoire commune qui est celle de l'Europe, donc également avec des migrations importantes. Et puis juste troisième info, vous aviez donné la troisième question, en effet le nom de migrants en Allemagne, et finalement qu'en est-il de la France finalement en 2015, 2016 ou 2014, mais assez récemment.
D'accord. Allez-y.
Oui, Éric Jean-Baptiste,
Ville de Paris. Parce qu'on prend les questions, puis après tu réponds, parce qu'après il faudra qu'on s'arrête.
Un mot, ça nous dit plus, évidemment, de ce que nous sommes, plutôt que de ce que est la migration, surtout après l'exposé de ce matin, le premier exposé. Je voulais simplement, sur la diapo que vous présentez, il y a 60% qui sont favorables à la suppression du regroupement familial, il y en a 40% qui sont favorables au maintien. Je dirais qu'à la limite, il y a quand même 40% qui sont favorables au maintien, et je voudrais savoir si dans les deux populations, 60-40, on a une idée de la composition, et qui sont finalement ces gens qui sont pour ou contre.
D'accord. Une ou deux dernières prises de parole, et puis après on répond, et puis après on va déjeuner. Oui, allez-y.
Bonjour, Ignolet, Société du Grand Paris. Vous nous avez présenté le point de vue des gens qui sont noirs, entre guillemets. Est-ce que vous avez les mêmes résultats ou les mêmes analyses concernant la population immigrée? Par exemple, est-ce qu'il existe un vote communautaire? Est-ce qu'il existe aussi des analyses d'opinion pour savoir comment est perçue de l'autre côté l'arrivée en France?
Dernière question, ou c'est bon?
Oui, juste un complément. Je pense que c'est vrai que c'est avoir le réel au prisme des sondages comme ça, on en oublie un peu le substrat et la réalité des flux migratoires. Je pourrais vous montrer éventuellement, ou mettre sur le réseau, vous montrer rapidement après deux, trois graphiques qui remettent les choses en perspective. Mais c'est vrai qu'en termes d'accueil, la France a été un pays d'accueil, sans aucun doute, beaucoup plus par le passé qu'aujourd'hui. Ça en fait qu'effectivement, en termes de stock, ce terme élégant, comme le disait Hélène tout à l'heure, elle reste, suivant les cas, à 9 ou 12%, selon la manière dont on comptabilise, de sa population composée d'immigrés, définie comme des gens qui sont nés hors de France.
Nés étrangers hors de France,
tout à fait, absolument. C'est complexe et c'est ça. Mais qu'aujourd'hui, en termes de flux, de personnes qui arrivent dans le pays, elle est à des niveaux qui sont deux fois moindres, enfin disons si on regarde l'année 2015 par exemple, deux fois moindre que l'Italie, 10 fois moindre que l'Allemagne. Voilà. Donc,
sur une année, en perspective. L'année où l'Allemagne a pris 1 million de migrants, c'est pas quand même la moyenne habituelle.
C'est pas la moyenne habituelle, voilà. Absolument. Mais je veux dire, c'était un moment où il y avait un moment de stress. Voilà. Et donc, c'est quand même une année très significative aussi.
Bon, tu as 5 minutes pour nous dire la synthèse générale, la politique, qu'est-ce qu'il faut mener, comment est-ce qu'il fait que les choses évoluent dans les matins qui viennent.
Sur ce que peut faire de toute sa politique, je pense que c'est un élément, c'est un éclairage, il y a le réel. Ce que pensent les gens, ça fait partie du réel aussi, il faut en tenir compte. Travailler dans des sociétés qui peuvent être confrontées à des mouvements localisés, d'opposition par exemple à des constructions hautes, donc ça fait partie de tout ça. Après ce que je disais tout à l'heure, nous on expose, on fait des présentations, on écrit des choses, pour essayer de comprendre aussi sur le temps long, pas uniquement parce qu'on dit voilà, il y a une fluctuation, les courbes, on zoome sur les endroits où ça monte et ça baisse, mais vous avez quand même des tendances lourdes hein, qui font qu'on est plutôt favorable ou plutôt opposé. Donc c'est notre boulot de restituer ça, d'essayer d'expliquer comment. Après c'est aux politiques de s'en emparer, de se dire est-ce que là-dessus on affronte ou pas, est-ce qu'on accompagne, et si on veut affronter ou essayer de faire bouger les choses, sur quel levier on peut s'appuyer. Bon, certains le font, d'autres ne le font pas. Par exemple, parler des migrants, parler du terrorisme, ça a été assez peu dit, mais et sur cette intégration, les 9 ou 12% qui sont nés étrangers à l'étranger, donc enfants d'eux, les 3 premières victimes de Mohamed Merah, c'est 3 parachutistes français qui sont d'origine maghrébine. Le premier flic qui est abattu devant Charlie, il est d'origine algérienne. Hors légion étrangère, 10% des pertes françaises en Afghanistan, c'est des soldats qui sont d'origine étrangère. Et donc là, le prix du sang, cette population-là, elle l'a payé.
Et Nice, c'est 30% de musulmans étrangers dans
voilà. Alors on peut dire, après Nice, bon, ils font partie du... Je veux dire, c'est un peu accidentel. Ils sont là. Mais la démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on peut faire la liste, il y a une presse bien-pensante qui insiste beaucoup sur les convertis parmi les terroristes. Il y a quand même 75 à 80% qui ne sont pas convertis. N'empêche que la population issue de l'immigration maghrébine, il y en a au moins autant dans le camp d'en face qui est là aujourd'hui pour nous protéger. Ça, c'est quasiment jamais rappelé. J'étais dur avec Valls tout à l'heure. Il a rappelé si, à un moment, il a fait monter plusieurs fois sur scène en Italie la mère d'un des parachutistes français qui avait été tué par Merah. En disant voilà, et donc on a bien cité son nom et son prénom pour rappeler ça. Donc il y a tout ce boulot-là à faire. Sur la question de l'immigration, c'est des visages. On parle de Marseille, on parle de Paris, on va voir dans les écoles, on va voir dans les hôpitaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'occupe, qu'est-ce qui en bonne partie fait tourner les hôpitaux? C'est des gens qui sont issus de l'immigration. Et ça, tout ça, ça n'a jamais été porté, ça n'a jamais été assumé. Donc le politique, il a normalement ce rôle à jouer, mais il ne le fait pas ou il le fait mal. Ça, c'est un premier point. Après, dire c'est juste un problème de communication politique ou là, sur la dernière période, on n'a pas fait. Il y a comme le temps long, c'est pour ça que je vous ai reparlé de 2005, des émeutes de banlieue. On peut parler de la guerre d'Algérie. Je vous ai amené un petit bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « La nouvelle guerre d'Algérie n'aura pas lieu ». Parce qu'on a tout un courant de la droite et de l'extrême droite. Ils disent ce qui est en train de se passer, ça c'est le remake de la guerre d'Algérie. Hein, parce qu'il y a des imaginaires comme ça qui sont très forts. Quand Hervé Gourdel, un otage français, est pris en otage par des djihadistes en Algérie, la région s'appelle la Kabylie, il est décapité ou égorgé. Ben, sur ceux qui se rappellent un peu de tout ça, bien évidemment, ça sonne pas du tout pareil que s'il était mort, je sais pas où, dans la jungle guyanaise. Hein, donc il y a. Les opinions publiques, elles ne sont pas malléables et façonnables comme ça. C'est le produit d'une histoire, c'est le produit de tendances lourdes. Ah, et encore une fois, quand j'insistais tout à l'heure en disant qu'ils sont OK pour des chrétiens d'Orient, mais niettes pour les autres, c'est pas qu'un problème de volume, c'est qu'il y a tout le rapport à l'islam aussi. Donc là, je renvoie sur Jean. Monsieur, pour la question sur est-ce que les populations issues de l'immigration sont plus enclines à l'accueil? Sur certaines enquêtes où on avait des effectifs suffisants, même si on ne va pas réduire de manière automatique, les personnes qui se déclarent de confession musulmane étaient beaucoup plus, enfin, un peu plus favorables à l'accueil des migrants en général que la moyenne des Français. Mais vous avez aussi, on connaît ça très bien dans les sociétés multiculturelles, un mouvement qui fait que le dernier arrivé ferme la barrière derrière lui. Hein, ça, c'est très classique aux États-Unis. Et dans les quartiers nord de Marseille, vous avez une population d'origine maghrébine qui se met ensemble pour aller casser la gueule à des Roms qui ont mis le bazar dans la cité il n'y a pas longtemps. Hein, donc, il ne faut pas non plus faire d'angélisme et tomber dans les clichés très faciles. Mais tout ça pour dire que il y a l'actualité immédiate qui nous brûle les mains, mais qui est d'autant plus brûlante que il y a tout un arrière-fond historique et que tout ça s'articule ensemble. Hein, et que certains, dont le bouquin de Stora qui parle de la guerre des mémoires, par exemple, avec le conflit algérien, on réactive tout ça. Aujourd'hui, dès que ce qui est en train de se passer, c'est le remake de la guerre d'Algérie, ça passe par le fait de dire qu'à l'époque, la guerre d'Algérie, c'était pas une guerre d'indépendance, c'était déjà une guerre religieuse. Alors tous les historiens qui ont bossé sur le sujet vous diront, oui, au FLN, ils étaient musulmans, mais c'était pas ça qui était le fondement de leur engagement politique. Donc il y a tout ce boulot-là, et effectivement, donc c'est pour ça qu'on essaie d'écrire le soir, le week-end, parce que effectivement, dans la société médiatique qui est la nôtre, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, on empile les choses, on a un niveau général qui baisse, alors que jamais, vu les problématiques auxquelles on est confronté, on a eu autant besoin de temps long, hein, ou des perspectives comparées, mais c'est aussi pour ça, c'est pour cela aussi que vous êtes là aujourd'hui, il faut faire un effort. C'est coûteux, ça prend du temps de se former, de regarder, de lire, de réfléchir, et d'essayer de comment dire, réagir un peu, ou de s'opposer un peu à la plus grande pente qui fait que, voilà, un tweet c'est 140 caractères, on a des déclarations à l'emporte-pièce, et on est complètement à côté de la plaque sur tous ces sujets. Et donc on réagit à l'émotion. Alors là aussi, on peut s'en féliciter ou s'en plaindre, mais ça fait partie, c'est une donnée inhérente à notre société. Hein, il y a les photos du petit Aylan. Le type qui a fait les photos, il a plus fait pour cette cause-là que des dizaines, des centaines de bénévoles, mais en jouant sur un truc hyper émotif qui, on l'a vu, se retournait après relativement rapidement. Alors, encore une fois, on s'en plaint, on s'en félicite. Les sociétés modernes, elles fonctionnent comme ça aujourd'hui aussi.
Oui, c'est pas... Ben ça, on en avait déjà parlé hier, hein, sur que, quand effectivement, Tabouillou nous a dit, un patron qui explique à la télé, face au salarié qu'il a licencié, pourquoi rationnellement il peut le faire, évidemment, l'opinion publique sera du côté du salarié qui pleure parce qu'il a perdu son boulot. C'est une société d'émotion, c'est pas non plus complètement négatif que les gens désespérés, on se solidaire avec eux, mais ça empêche d'être rationnel. Non, je voudrais juste rajouter deux choses. D'abord, c'est vrai ce que tu dis. Bon, faut quand même jamais oublier qu'on a laissé 70 000 harkis en Algérie faire massacrer, c'est-à-dire la moitié de nos soldats. Et que parce que De Gaulle ne les a pas voulu. Parce qu'ils étaient quand même aussi musulmans, même s'ils ne s'étaient pas engagés en tant que musulmans. Mais de fait, laisser quand même la moitié de ses troupes se faire massacrer, ça montre bien que le rejet, le refus, au fond, de l'altérité dans la culture française est radical. Et je vous rappelle qu'on avait fait pareil au Vietnam. Et que donc, c'est pas simplement dans la guerre d'Algérie, ça avait été pareil dans la guerre du Vietnam, notamment avec les Mongols. Donc, si vous voulez, qu'ils étaient très très proches de l'armée française. Donc ça veut dire que le refus de la culture française, ou plutôt la difficulté de la culture française à s'ouvrir à la culture de la diversité, elle s'ouvre déjà plus qu'avant. C'est une culture historiquement moniste, donc effectivement, qui a l'idée d'une culture hiérarchique, avec un sommet, une religion centrale, etc. Bon, je crois qu'il faut le dire, mais en même temps, en voyant les évolutions. Mais ça, c'est des choses, et c'est pas hasard non plus, si Le Pen, qui a été accusé d'avoir participé, elle a participé à la guerre d'Algérie, savoir s'il a torturé ou pas, il y a débat historique, je suis très prudent, je ne veux pas être poursuivi directement, mais en tout cas, il est clair qu'il y a un fil historique entre tous ces éléments. Bien. La deuxième chose que je veux rappeler, c'est que dans les populations musulmanes françaises, il y en a 20% qui fréquentent les lieux de culte. 80% ne les fréquentent jamais. C'est le double, maintenant, des autres religions. C'est-à-dire, chez les juifs, les catholiques et les musulmans, il y a à peu près 10% des pratiquants. Chez les musulmans, c'est 20%. Là aussi, il faut aussi avoir les chiffres, c'est important de se représenter les choses. La plus grande partie des musulmans ont des fonctionnements de la société dans laquelle ils vivent, notamment dans le rapport à la pratique religieuse, même si c'est vrai aussi qu'il y a une augmentation, par exemple, des signes extérieurs du Ramadan, qui sont tout à fait nets en France, mais encore plus en Algérie, y compris en partie par solidarité. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on décrit sans arrêt les Arabes, un certain nombre de musulmans, non forcément religieux, vont faire des signes de solidarité avec leur communauté d'origine. voire aussi que ça leur est imposé dans certaines situations, il ne faut pas se cacher non plus, et que s'ils ne le font pas, ils se font casser la gueule. Donc il y a aussi, il ne faut pas non plus là aussi être angélique dans les pratiques. Voilà, je voulais dire ça. Maintenant, évidemment, on va aller manger.